Ah, celle-là, a cappella, elle est marrante à faire. Bon.
On peut faire chacun un instrument.
Léo, tu faisais le balai là?
Tu sais pas ce que je faisais.
La serpillière.
Cette année 98,
2005,
1973,
2011,
2012, 2013,
1968,
1988,
l'an 2000,
1977,
2010,
1991,
2006,
94,
2017,
95,
1962,
1989.
Un millésime grandiose.
Hola, ¿qué tal? Estamos de retour pour le nouveau numéro du millésime. Oui, je n'ai pas encore un espagnol parfait, mais je suis bronzé. Nous voici dans le 7e épisode avec toujours la même équipe. Chloé, Clément et Manu. Bonjour, bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour.
Est-ce que vous allez bien?
Oui.
Oui.
Ça va, oui, oui.
Bon, chers auditeurs, rappel du contexte. Donc, on choisit une année entre 1963 et 2013. On réfléchit chacun de notre côté au morceau le plus de cette année, puis on confronte nos idées et à la fin, c'est moi qui ai raison. Aujourd'hui, deux épisodes plus tard, nous retournons dans les 90s, mais au tout début. Alors, est-ce que c'était la même chose avec 8 ans d'écart? On va essayer de vous dresser un portrait non exhaustif de 1991.
Je voudrais qu'on s'arrête, avant d'avoir les résultats de Roland-Garros, sur un phénomène de plus en plus marquant, c'est la vogue extraordinaire des chaussures de sport utilisées non pas pour le sport, mais pour les porter en ville. Sachez que le troisième salaire de patron aux États-Unis est celui de la firme anglaise, mais dirigée par un Américain, Reebok.
Bienvenue en 1991.
17 janvier, début de l'opération Tempête du désert qui signe un mois plus tard la fin de la guerre du Golfe qui avait débuté en août 90.
14 février, sortie du Silence des agneaux aux États-Unis.
Mars, ouverture du premier club berlinois à Berlin-Est, le Trésor.
29 avril, un cyclone fait plus de 138 000 morts et 10 millions de réfugiés au Bangladesh.
15 mai, démission du Premier ministre Michel Rocard, suivie de la nomination de la première femme Première ministre, Edith Cresson.
21 juin, premières inculpations dans l'affaire du sang contaminé, après les révélations dans la presse en avril de la même année.
9 juillet, suite à l'abolition des dernières lois de l'apartheid, l'Afrique du Sud réintègre le mouvement olympique.
6 août, création des internets par Tim Berners-Lee, qui lance le World Wide Web, tout premier site internet.
28 septembre, le festival Monster of Rock à Moscou réunit entre 500 000 et 1 million de personnes. Il est considéré comme l'un des plus gros concerts à ce jour.
16 octobre, sortie de Terminator 2 en France.
24 novembre, décès de Freddie Mercury.
26 décembre, après les déclarations d'indépendance de nombreux pays du bloc soviétique, c'est la chute de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Plus du RSS, plus de guerre froide. Grosse année en termes de politique en tout cas. C'est d'ailleurs le début des plans Vigipirate en France qui a amené à une interdiction de pas mal d'événements dans le spectacle. Je dis ça parce qu'on m'en a parlé voilà, de tout ça. Avant de vous laisser la parole, nos chers amis, les top 3 de l'année. Donc le top monde selon Wikipédia, c'est un peu toujours pareil, c'est un espèce de rassemblement de tous les tops et je pense qu'ils ont fait une pondérance, machin, bon, je ne sais pas. On a Roxette avec Joe Ride. En numéro 2, on a Michael Jackson avec Black or White, pardon. Mm-hmm. Et ensuite, nous avons Bryan Adams avec, entre parenthèses, Everything I Do. Fermez la parenthèse, I do it for you.
Donc là, la parenthèse, elle est avant.
Elle est avant, c'est un peu
bizarre. Encore plus con.
Pourquoi? Pourquoi?
Mais c'est parce que quand il chante, il le chante d'un peu plus loin. Everything I do.
Vas-y, approche-toi.
I do it for you.
Et du coup, le top 3 France, c'est Scorpion avec Wind of Change, Zucchero et Paul Young avec Senza una donna. Entre parenthèses, without a woman. À mon avis, c'est juste une traduction. Et en premier, on a REM avec Losing My Religion. Alors, 1991, des souvenirs, des difficultés à trouver un morceau, un plaisir, une année compliquée, une année facile. Voilà, Chloé, est-ce que tu as des choses à dire? Pas de souvenirs déjà?
Pas de souvenirs, non, très peu. Et moi, j'ai fait le choix de la facilité et de l'évidence.
Voilà. C'est aussi...
Tout simplement.
Oh, l'éloquence, la simplicité aussi de la prise de parole.
Voilà.
Que de syllabes.
Manu, est-ce que tu as cette année?
Alors 91, moi je me rappelle pas, hein, j'étais beaucoup trop petit, mais par contre 91 c'était soit c'était compliqué ou alors c'était très simple. C'était c'est non mais vraiment
l'un ou l'autre ou les deux.
Alors au final tu vois
parce que là c'est les deux choix.
C'est non mais pour le coup
t'as pas encore choisi si c'était compliqué ou simple. Ou...
C'est
tu fais la même émission avec d'autres gens après.
On enregistre là.
Non, je vous rassure, j'ai quand même fait un choix. Mais non mais vraiment j'ai hésité sur deux trois trucs, mais c'est juste j'aurais pu dire ça aurait pu être le coup de cœur simple. Mais je voulais quand même respecter les règles et j'ai quand même trouvé un truc et j'ai des trucs à dire dessus, donc je suis content quand même. Ça va.
D'accord. Superbe. Ok, très bien. Je pense que tu auras forcément des choses à dire.
Je vais pas rentrer dans l'analyse de 91
tu
maintenant, parce que sinon vous parlez dans 20 minutes. Donc, voilà.
Alors ok, peut-être tu parleras à la fin du coup.
Je vais garder. Ah mais c'est pas si con cela dit. Cela dit, on peut garder ça pour la fin parce que.
Clément. Est-ce que ça a été facile, simple?
Non, ça n'a pas été facile parce qu'en fait j'avais oublié qu'on faisait ça, j'avais même oublié l'année, donc il a fallu que. Ça a été moins simple que ce que j'aurais imaginé sur 91, je sais pas pourquoi. Moi j'ai pas de souvenir de 91 parce que je suis né lors de la révélation du sang contaminé.
Ouais, pourquoi t'étais pas dans la pastille?
Clairement, j'étais pas dans la pastille parce que je suis pas assez connu, je pense.
T'es né en 91?
Ouais, je suis né en 91.
Ok.
Le jour du sang contaminé.
Ah ouais.
Enfin, le jour des révélations, hein. C'est pas moi qui ai contaminé le sang.
Du coup, ta naissance est passée inaperçue, quoi.
Clairement, voilà. C'est comme les gens qui meurent juste après Johnny Hallyday. C'est une mauvaise idée.
Voilà.
Non mais ouais ça a été ouais bon j'ai trouvé quelque chose en fait j'ai hésité entre deux chansons mais j'ai absolument rien à dire en comparaison à Manu moi j'ai rien à dire sur le morceau.
D'accord.
Bon, on va s'amuser quand même c'est pas grave.
Non. Non je vais faire ça vraiment très de manière très triste.
Ok.
Monsieur voilà. Okay. Rabat-joie.
Bon, on va pleurer c'est pas grave.
Putain. Dis le mec il nous a sorti une guitare la dernière fois. Hein.
Comment tu veux reprendre la main après ça enfin, c'est,
excusez-moi, et toi, Léo, mais... ça a été
Ouais, merci. Ouais.
Oui, Léo.
Alors, moi, je vais pas faire non plus une analyse de 91, mais grosse, mais très grosse année en termes de sortie.
Oui,
et,
ça chaque année. Hein.
Et non, mais particulièrement, ouais. Je trouve cette année-là en termes de.
Réponds ça à chaque fois.
Non, en termes de comment on appelle de classique, beaucoup.
Parce que c'est.
Mais alors, le top, il est dégueulasse.
Ouais,
voilà,
c'est le plus gros contraste.
C'est très bizarre.
Quoi que tu puisses trouver.
C'est assez étrange.
Ah, mais c'est parce que t'as des morceaux qui ont vécu dans le temps et t'en as d'autres qui ont vécu juste sur les ondes FM.
Disons ouais, mais ce que je trouve très étrange, c'est qu'il y a des trucs quand même très, enfin, qui étaient connus à l'époque, mais on retrouve pas, en tout cas, dans le top ces trucs-là. C'est un peu une année un peu charnière, mais j'en parlerai lorsque ça sera le temps de parler de mon morceau. Et je vous propose, sans plus tarder, que nous commencions à passer le premier morceau ou en tout cas à ce que la première personne nous dise ce qu'elle nous a à nous dire. Je te propose que Manu, tu commences.
Oui.
À nous débriefer ton année 91.
Oui. Donc 91, ouais, comme je disais, en fait, ça aurait pu être. C'était soit. Non. Alors pour le coup, bah non, c'est juste le lancement. En fait, c'est marrant parce que j'avais oublié que t'allais la citer en intro, mais en fait, bah, j'ai pris un morceau du top 3. Parce qu'en fait, j'étais pas convaincu à la base, mais en fait, je suis parti sur Losing My Religion de R.E.M.
Corner. That's me in the spot.
Il est midi 47 sur RTL2, c'était donc REM avec
Et c'est que la cinquième fois de la journée que nous la passons.
Je dois avoir un truc, je crois que c'est la première fois où on fait un épisode. J'ai choisi mon morceau et je l'ai même pas écouté en entier, même avant. Parce qu'en fait, c'est une chanson que j'ai tellement trop entendue. J'ai fait oui, bon, c'est bon quoi.
On connaît quoi.
Voilà, c'est ça. Bon, ça reste quand même Losing. Alors, Losing My Religion, ouais, c'est dans tout le gros truc qui est 91. Mais je pense qu'on va garder des éléments au pire quand on débriefera à la fin parce que là, c'est un peu trop fat. Mais. C'est assez marrant parce que je me rappelais que ça avait été un gros morceau, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Le truc, il a été numéro 1, mais même en France, alors tu dis que nous, en général, on est un peu à la ramasse là-dessus.
Ouais.
Et il y a beaucoup de pays où tu fais putain, ce morceau, il a cartonné. Et ce qui est limite, c'est un peu plus le succès de la chanson qui m'a surpris. Parce que, enfin, moi je pensais à REM, c'est même pas dans mon top 3 des chansons que j'aime le plus ou que je reconnais le plus, tu vois, je pense pas forcément à celle-ci. Je pense plus à, je sais pas, Imitation of Life ou des chansons comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est plutôt le morceau qui est un peu le signe du rock alternatif qui commence un peu à cartonner un peu partout dans le monde. Et c'est assez marrant parce que je pense que c'est la seule chanson, enfin, c'est peut-être la chanson la plus connue qui commence par de la mandoline. Ça, c'est vraiment le truc où tu fais, je pense qu'il n'y a pas de, je vois pas trop d'équivalent.
C'est de la mandoline.
Ouais, c'est, alors oui, j'avais zappé, mais oui, c'est de la mandoline, ouais. Elle a un côté très très mémorable parce que c'est une chanson, t'as la mélodie est assez simple, c'est facile à chanter, même c'est facile à jouer sur une guitare, donc c'est un truc qui reste bien en tête. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que la maison disque, en fait, ils croyaient pas en tant que single. Et en fait, ils ont dû faire un
du
peu le forcing. Ouais, et voilà, comme d'hab, quoi. Et en fait, pour une fois, le succès, il a été assez, je veux dire, c'est pas vraiment cohérent, mais enfin, il y a une logique dedans, c'est qu'en fait, ils ont fait passer, enfin, Warner, qui était leur maison de disque, ils ont fait passer le morceau d'abord sur des radios rock ou des radios de campus, quoi. Et en fait, ça a tellement bien marché que du coup, au fur et à mesure, ils ont augmenté la visibilité sur plus d'antennes, plus d'ondes, et du coup, c'est comme ça que le truc est devenu plus marquant. Et en fait, je me suis dit, c'est un truc qui est quand même hyper rare. Ce truc un peu organique de voir en fait des groupes, enfin des artistes qui sortent un peu des scènes alternatives, des scènes indées et qui montent, et en même temps c'est vraiment très représentatif de cette période parce que en fait c'est le moment où les indés ils arrivent de plus en plus à fidéliser un public, t'as des morceaux qui peuvent, même si ça vient de la marge, qui peuvent avoir un énorme succès d'un coup. C'est pas forcément des morceaux qui vont être fun ou pop, la preuve c'est que bon, Losing My Religion c'est quand même pas un morceau, c'est pas la teuf quoi, c'est plus un morceau qui parle. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus une histoire de relation amoureuse, mais j'ai lu qu'en tout cas il y avait beaucoup de confusion sur qu'est-ce que voulait dire la chanson. Ça parle de religion, ça parle de foi. En plus, le clip, il parle. Enfin, je trouve qu'il force tellement dans le symbolisme que tu peux y voir beaucoup de choses assez différentes. Mais bref, tout ça pour dire, c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que c'est plus le moment où ce morceau arrive qui est intéressant, parce que en fait, ouais, c'est là où tu te dis, en fait, oui, un morceau qui est pas forcément pop peut devenir numéro 1, et en plus sans être un truc qui vient d'une star qui décide de faire une chanson un peu triste, quoi. C'est vraiment ce groupe, ils étaient connus bien sûr déjà un peu à l'époque, mais ils n'avaient pas du tout l'aura qu'ils ont à partir de ce moment-là. Et il y a un côté vraiment, maintenant en fait, ce qui est populaire, c'est aussi imprévisible, quoi. C'est que REM, ça peut marcher aussi bien que tu citais Michael Jackson, quoi. Et du coup, t'en reviens vraiment à ce truc de, en fait, la musique avant tout le star system. T'es un peu dans un truc, en fait c'est marrant, vu que l'épisode d'avant qu'on a fait sur les années 60, tu retrouves un peu ce truc de même plus fin années 60, début 70, où tu dis c'est un peu genre, ce qui marche aussi, c'est pas forcément des trucs pop de l'industrie musicale, c'est pas forcément fait pour être des gros succès, mais en fait ça arrive quand même à toucher un public assez large, et du coup ouais, c'est pour ça que je me suis dit c'est un morceau qui est assez marquant pour l'époque, qui est resté d'ailleurs sur la longueur quand même. C'est encore un morceau, la preuve, si j'ai fait référence à RTL2, c'est qu'on l'entend tout le temps. Oui. Mais ouais, en fait, j'ai trouvé le morceau intéressant. C'est cool de pouvoir parler de REM. C'était pas forcément le choix le plus évident, et en même temps, je trouve que symboliquement, ça marche bien. Voilà.
Plusieurs questions, parce que je connais très mal REM. Je connais très mal parce que c'est un groupe qui m'attire pas du tout, justement pour ce côté rock alternatif que de ce que j'en connais, je trouve ça fadasse. Je pense que j'ai tort, mais sait-on jamais. Ils étaient quand même bien connus, ils étaient quand même un peu connus à l'époque, ou
ils étaient
en 91.
Ils étaient, comment dire ?
Parce qu'en fait, je viens d'aller voir sur Wikipédia, très honnêtement, et je pose la question en regardant, c'est qu'en fait, ils ont été créés en 81, donc ils ont l'air d'avoir déjà beaucoup d'albums à leur actif.
C'est vraiment un groupe de. Je veux dire, c'est un peu un groupe de scène locale où à un moment, parce que eux, je crois qu'ils viennent de Athènes, mais Athènes, c'est en Géorgie, aux États-Unis, donc triple bug géographique.
Athènes, Géorgie.
Athènes, ouais, c'est ça. Ça. Et en fait, ouais, c'est un peu. En fait, c'est marrant parce que je trouve que sur certaines vibes, il me rappelle des groupes français de rock alternatif des années 90, en fait, ce qui arrivera après, quoi. Où tu te dis, ça marche parce qu'ils savent faire des chansons pop un peu rock, mais c'est très varié, en fait, R.O.M. Et moi, dans mon souvenir, c'est que c'est à partir des années, fin années 80. Ouais, tu vois, ils signent en 88 chez Warner, mais c'est à partir de là où ils commencent à avoir des succès, ils sortent un peu de l'underground. Mais tu sais, un peu genre. Oui, c'est un peu genre. Ils arrivent avant le grunge, en fait. C'est vraiment un des premiers groupes, on va dire, alternatifs, qui arrive à avoir un gros succès populaire avant l'explosion rock que tu vas avoir dans les années 90. Donc, ça a été un peu des précurseurs pour ça. Quoi.
Avec quand même cette notion de populaire, parce que t'avais quand même des groupes qui étaient un peu, enfin, qui étaient populaires, mais dans la vibe très punk et compagnie, mais bon.
Ouais, c'est ça.
Moi, je trouve ça quand même très pop. Je veux dire, c'est calibré radio. Est-ce que c'est calibré radio parce que je l'ai rétrospectivement, parce que c'est un calibre de radio aujourd'hui, ou est-ce que, c'est une vraie question, c'est un peu métaphysique, c'est un peu
jusqu'à la con,
mais c'est vrai que on l'entend tellement que du coup j'ai l'impression que c'est le standard de radio genre Hit West, RTL2 et tout ce que tu veux. Et en même temps, est-ce qu'à l'époque ça l'était un peu, je sais pas trop.
Le truc, c'est que, alors je comprends pourquoi tu dis ça et je suis assez d'accord. Je pense qu'en fait il y a un calibre pop qui vient du succès de ce genre de morceau, mais qui est aussi lié au fait que depuis qu'il y a une industrie musicale, faire des couplets-refrain, un pont et un refrain, voilà, c'est un peu une recette qui marche très bien.
Ça réinvente pas.
En fait, ouais, c'est vraiment, ils révolutionnent pas grand-chose, R.O.M., mais c'est juste, je pense que c'est plus dans les textes, les trucs qu'ils vont aborder, le fait qu'il y a beaucoup. C'est quand même assez, je dirais pas expérimental, mais tu vois, ils sont un peu touche à tout. Quand tu écoutes différents albums, différents morceaux, tu sens quand même qu'ils recherchent des ambiances, des arrangements un peu différents. Après, sur la construction des morceaux, et c'est aussi ce qui a fait un peu leur succès, c'est que c'est facile à jouer. Que ce soit ça, que ce soit Imitation Life, Everybody Hurts, tu vois, c'est des chansons, si elles ont continué à autant marcher. Ouais, voilà, mais tu fais. Oui, donc je suis content.
C'est que je suis pas allé voir.
Ouais, voilà, mais je comprends aussi ton point de vue, c'est que du coup, vu comme ça, et c'est pas forcément les morceaux les plus intéressants qu'ils ont fait en plus, mais oui, il y a une certaine facilité. Tu vois, alors je vais faire un parallèle qui va peut-être faire bondir des gens, mais moi, c'est un peu à ce que je pensais par exemple de Louise Attaque. Il y a une période où je disais, moi, les Louise Attaque, ça me fait strictement rien. Et en même temps, je comprends pourquoi ça marche, parce que c'est un peu simple, tu vois. C'est simple dans le sens, c'est facile d'accès, c'est assez mémorable, ça se chante plutôt bien. Mais R.O.M., ils me renvoient vraiment souvent cette. Enfin, en tout cas, dans leur plus gros tube, ils me renvoient ce truc-là. Et je pense qu'en fait, à ce moment-là, il y avait besoin d'avoir des groupes qui soient pas dans un truc très. Extrême, enfin je veux dire, même si c'est con de dire ça, mais je pense que ouais, des trucs de punk qui auraient jamais pu devenir des gros tubes, tu fais, en fait il a fallu qu'il y ait des groupes de rock un peu alternatifs mais qui sont quand même assez légers entre guillemets pour marcher et pour dire en fait on peut avoir en fait des gens qui sont à la marge mais qui font une musique qui est accessible pour tout le monde quoi.
Ok, je suis assez d'accord.
C'était la question 1 ou j'en ai d'autres ?
Chloé, t'as autre chose à ajouter parce que...
Si ça pouvait éviter d'être une question.
Enfin... Une interjection, si tu veux.
Interjection, non, mais j'ai du mal à me projeter dans REM déjà, R.E.M. R.E.M. musique alternative et j'avoue que c'est tellement passé en radio, mais pendant... Enfin, ça passe toujours en radio tout le temps que... Je suis étonnée que ce soit un de leurs plus gros tubes, enfin le climax de leur
carrière.
De leur carrière.
Ouais, mais voilà, en plus,
c'est tout.
Moi, ce qui me surprend, c'est toujours ce truc de, c'est pas genre ils ont été, top 6 ou 7. Non, ils ont été numéro 1 dans plusieurs pays, dans plusieurs semaines. Et j'aurais jamais cru que ce morceau-là avait eu autant de succès, quoi.
Mais j'aurais pas. Ouais, tu vois. Et puis tu me demandes quelle année, pour le coup, là, j'aurais jamais su. Est-ce que c'est les années 90, 80, je ne sais pas, 2000
Effectivement, il y a un petit côté intemporel.
Voilà, c'est ça, ils sont intemporels.
C'est vrai. Alors, intemporel, je ne sais pas, parce que je trouve que ce truc-là, avant les années 80, enfin, ça ne sonne pas du tout 80, pour le coup, je trouve. C'est trop bien produit pour les années 80, il n'y a pas cette santé.
Ça pourrait être pris à contre-pied dans les années 80, ça.
Ouais.
Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Okay, ouais.
Je pense que la production aurait été un peu différente. D'une façon ou d'une autre, mais
il y aurait eu du synthé.
Ouais.
Non, mais c'est ça que je dis.
C'est ça. Mais ouais, c'est il y a un son quand même qui commence à être le son fin années 80, début 90, ou même tu reviens à des trucs. C'est plus de la fin, tu vois, un peu des trucs de folk qui reviennent avec, par exemple, bah, tu vois, genre une mandoline ou tu vois des guitares acoustiques qui reviennent aussi. Donc il y a quand même une esthétique qui fait penser un peu aux années 90. Mais je suis assez d'accord avec vous sur ce côté. Bah ouais, ce morceau, il aurait pu sortir 5 ans avant, 5 ans après. Je sais pas s'il aurait eu le même succès, mais par contre, oui, il a un côté un peu, bah, c'est une compo qui est tellement carrée, qui va tout droit, tu sais ce que t'as, que ouais, en fait, ça aurait pu marcher à n'importe quelle période, quoi.
Et en même temps, il représente bien, effectivement, je suis d'accord avec toi, ce truc 91 de... ouais, de cette année un peu charnière. Oh putain, encore, on a encore dit ça. À chaque fois, c'est années charnières. Non, mais là, en l'occurrence... Ouais.
Particulièrement cette année.
Mais ouais, mais on le dit à chaque
fois. L'année charnière entre 1990 et 1992, moi je trouve.
On l'oublie souvent.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a moyen qu'on en parle plus tard, mais le truc du grunge, le truc de, en fait, d'en avoir marre de ces années 80 clinquantes et scintillantes, et du coup, je trouve que c'est pas un tube clinquant et scintillant, c'est un tube efficace, simple, et le côté, moi je trouve ça très pop pour le coup, pas c'est en fait c'est de l'alternative pop, ouais. Quoi, presque.
Je pense que tu vois, le seul truc que je pourrais te dire pour pousser un peu l'argumentaire, c'est que imagine t'es à l'époque, tu sors de, enfin je sais pas, du hair metal, tu vas bouffer du Guns N' Roses, mais à côté la pop à cette époque là elle a vraiment une sale gueule. C'est aussi pour ça que tu vas avoir notamment le grunge qui va exploser, c'est que c'est aussi parce que la pop à ce moment là t'es dans une phase de transition, t'as beaucoup de trucs qui sont très fadasses. Et en fait, je pense que typiquement un morceau comme ça, bah c'est un peu tu vois, bouffer d'air frais, quoi. C'est, on peut faire un morceau pop, enfin sans en faire des caisses et sans avoir l'impression que c'est un truc qui est fake. Et je pense que c'est le côté qui a l'air enfin on va dire entre guillemets authentique, mais je trouve ça con de dire ça, mais qui fait en fait le poids et qui va faire le succès d'autres groupes et d'autres artistes après. C'est ce côté genre, on n'est pas juste des stars, on n'est pas juste une façade. On a une personnalité artistique et une, voilà, et des trucs qu'on veut déprendre et qu'on veut exprimer, et c'est ça qui est intéressant.
C'est marrant parce que je disais vraiment, là c'est un truc très perso, mais moi REM ça m'attire pas du tout, parce que tous les tubes que j'en connais, ça me fait chier à un point, parce que ça j'aime pas. Après, mais je respecte le truc parce que je trouve qu'il y a une patte, enfin tu vois, il y a ce truc de groupe pop, mais groupe pop avec un, voilà, c'est juste je suis pas la cible, mais du coup c'est intéressant, quoi. Est-ce que Clément, t'as quelque chose à rajouter, à poser comme question à Manu sur...
Non, j'ai bien compris qu'il maîtrisait le sujet. Hein. Je ne me permettrai pas de poser.
Essaye de le coller un petit peu.
Et REM, ça veut dire quoi?
Right Eye Movement. Apparemment, c'est le mouvement que tes yeux ils font quand tu rêves.
Ouais, exactement, je le savais, c'était juste voilà. Et ben écoutez, pour moi c'est très bien. Écoutez, vous aurez les résultats de cet exposé dans les semaines à venir.
Alors est-ce que en cadeau je peux avoir des REM du coup?
D'accord. Vous êtes noté sur 20 REM. Il y a le barème.
Oh, putain, le barème. Oh,
elle était trop
simple. On s'arrête là-dessus.
Je ne sais même pas pourquoi je l'avais pas vu.
Du coup,
fin d'épisode. Et bah merci.
Ah non, en fait, je veux pas être payé en REM. On dirait des gâteaux de guerre. Et oui, voilà.
Bah, tu seras bien content, tu verras.
On dirait les vieux gâteaux que les hobbits ils mangent quand ils vont jeter un anneau dans le Mordor.
C'est du lambasse, quoi. T'as 4 repas dedans, quoi.
Alors, je propose de reprendre la main. Donc, 1991, on a dit qu'il y avait plein de choses, mais il y a plein de choses qui sont plus là, mais qui sont encore là dans les top charts.
Me fait peur.
Comme on a dit, les productions absolument dégueulasses et les synthés des années 80, le hair metal et tous ces trucs-là, et en même temps, il y a encore le hip-hop, il prend un peu son essor, et en même temps, il y a des relents de hip-hop, on râle comme ça, et tout ça, et il y a eu le second Summer of Love qui est passé par là, et donc du coup, moi, j'ai trouvé un morceau en fouillant un peu, et en même temps en fouillant pas, parce qu'il a quand même été top 5 aux US, il a été top 1 au UK et dans plein d'autres endroits. C'est quand même un morceau qui a eu une influence d'un groupe que je ne connaissais pas, mais à mon avis qui en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, doit être quelque chose, c'est The KLF, avec le morceau 3 AM Eternal, live at SSL. KLF is gonna rock ya. We'll be right back. Alors du coup c'était 3AM Eternal de The KLF qui, comme je vous disais, moi, un groupe que je connaissais pas avant de faire cette émission et que j'ai vu passer dans les tops. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, putain, il y a un truc, il y a un truc qui ressemble à ce que je cherche, à ce que j'entends. En tout cas une espèce de grand gloobie-boulga de plein de choses et en même temps assez abouti et tout ça. Donc alors le groupe, en fait, je me suis rendu compte en commençant à faire des recherches que j'aurais dû faire plus de recherches et que en même temps j'ai pas le temps et on n'est pas là pour faire ça. Mais en fait, si on faisait encore des tartimes, je pense que j'essaierais de trouver un truc à dire parce que ça a l'air d'être un groupe hyper important et hyper complet sur plein de choses. Avec en fait deux musiciens, en fait, The KLF, c'est Bill Drummond et Jimmy Cauty. Bill Drummond, je crois, qui était dans Big in Japan, qui est un groupe de punk, voilà, de un peu old school. Donc c'est un groupe qui était en plein dans le second Summer of Love. Donc le second Summer of Love, c'était dans les 88-89 et qui était le deuxième mouvement spontané de la jeunesse, où en fait au Royaume-Uni, où en fait les jeunes allaient en rêve party, quoi, globalement, et prenaient du LSD et surtout des extasies pour écouter de l'acid house. Donc en fait c'est un groupe d'acid house à la base, mais qui vient quand même du punk. Voilà, c'est un peu ça la base. Et là, ce morceau-là, c'est une réédition d'un morceau qui s'appelait 3AM Eternal. Et là, ils l'ont refait en live at the SSL. Et en fait, la SSL, c'est juste le nom de la... C'est la Solid State Logic, qui est une table de mixage, en fait. Donc, je pense que ça a été enregistré en studio. Il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Aussi, parce que du coup, je suis un gros fan des sous-genres. Ce truc là s'appelle de la Stadium House.
Ouais, voilà. Ça va bien avec okay.
Et en gros, c'est une espèce de combinaison de house, de un peu de rock parce que t'as des guitares électriques, et en même temps avec un truc rappé, tout ça, mais du rap très mainstream. En gros, j'en avais parlé dans l'épisode 0 que vous n'avez pas entendu, chers auditeurs, mais du coup je parlais du big beat. C'est un peu l'ancêtre du big beat. Le big beat qui est sur de la musique électronique hyper avec beaucoup d'éléments du rock et tout ça. Donc en fait j'ai vraiment ce truc là avec un rap qui pue la fin des années 80, quoi. Enfin, ouais. Vraiment, avec c'est quelque chose qu'on verra 2 ans plus tard, ça existe plus, ce style de rap. Et on retrouve aussi des trucs un peu atmosphériques, trans, enfin de la trans, puisque c'est la naissance de la trans aussi, par ailleurs. Donc la trans musique qui est un peu de la musique électronique, on va dire, atmosphérique, et en même temps qui te donne envie de danser. C'est pas très bien résumé, mais c'est à peu près ça. Et on retrouve pas mal d'éléments d'un autre genre musical qui apparaît au même moment, qui a pas encore ce nom-là, mais qui est le trip-hop, aussi, je trouve. Et on est un peu dans cette synthèse du début des années 90, avec tout un mélange, et en fait, je trouvais que ça correspondait très bien à ce qui était en train de disparaître, et en même temps, ce qui était en train de naître par ailleurs. Et du coup, voilà, j'ai un peu l'idée de prendre ce morceau-là. Et aussi pour dire que j'ai pas pris un morceau qui est vraiment pas connu, comme j'ai déjà pu le faire. On parle quand même d'un morceau qui est dans le top France, hein. Enfin, voilà.
Ouais, donc, ça c'est improbable quand même.
C'est un peu tout ce que j'ai à dire. C'est déjà pas mal, je pense, sur ce morceau. Et je dis que faudrait que j'aille fouiller plus le groupe, parce que je pense qu'ils ont été assez influents, parce que ça reste des gros punks de la scène house, donc avec des trucs un peu bizarres. Enfin, bizarres, non pas bizarres, mais du coup très anti-commercial, et en même temps ils ont bien cartonné, quoi. Voilà.
C'est bien. Je trouve que c'est un bon choix. Comme tu l'as déjà dit, on est sur une année charnière, on l'a dit à chaque fois, mais là je trouve qu'il y a vraiment tout, et il y a encore quand même, je sais pas, il y a un peu une esthétique fin des années 80 un petit peu. Mais il y a un mélange d'un peu tout ce qu'on va retrouver dans les années suivantes, donc c'est pas mal. Et c'est beaucoup plus chargé que REM.
Ouais. Il y a beaucoup de choses. Mais t'as une esthétique qui ressemble un peu à ce que tu retrouves dans Terminator 2, un peu du cuir et des lumières bleues.
Ouais, ah ouais, grave, ouais. C'est vrai, ouais. Oui, je t'ai dit, grave.
Oui, parce qu'on l'a pas dit pour les auditeurs aussi, le clip fait un peu post-apo avec You Punk, ce truc très très fin 80, effectivement début 90.
Mais un peu futuriste, parce qu'ils ont des téléphones portables.
C'est ça. Comment ça fait ce film de Cameron,
ils sont pas futuristes même pour l'époque, hein, les téléphones portables.
Ouais. Bah après. Ouais. Bonne surprise, parce que je t'avoue que je m'attendais pas à ce que tu sortes ça, et en même temps bien vu. Et c'est marrant ce que tu as dit sur les trucs d'avant qui restent encore un peu là, mais des nouveaux trucs émergent et tout. Ouais, je trouve que ça marche extrêmement bien sur cette année-là en particulier, parce que T'as vraiment ce moment où tu te dis, en fait, on a. Je pense que c'est vraiment le début du moment où, en fait, on a assimilé tellement de genres de musique qu'en fait, toi, en tant qu'auditeur lambda, tu peux écouter des trucs assez différents, des différents styles et même des mélanges de styles, parce que là, franchement, on est sur un truc hybride. Ouais, je peux te citer. T'as l'impression que t'as 4 ou 5 sous-genres dedans, quoi. C'est. Et pour autant, le truc marche très bien, et le fait que ça a aussi bien, ça s'est aussi bien vendu et tout, c'est que on commençait vraiment à, enfin, la vision qu'on a maintenant, je dirais, de la musique, je pense que c'est vraiment à partir de cette période-là qu'on l'a vraiment intégré, quoi.
Bah, ce que je disais, c'est pour ça que je faisais référence au trip-hop, c'est que je trouve qu'il y a un truc un peu, justement, le trip-hop est aussi un peu à cet endroit-là de mélanger plein de petits trucs ensemble et d'en faire un truc cohérent. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, quand tu vois les... Ah, Aerosmith et...
Run DMC.
Run DMC. Ouais. Tu vois, c'est un peu cohérent, mais tu sens le truc de deux choses collées. C'est vraiment deux trucs qu'on a mis ensemble. Alors que là, du coup, t'as vraiment un truc...
Mais alors, c'est marrant
parce que
je trouve
que les mecs écoutent de tout.
Ils ont clairement une vibe Run DMC hein, dans l'esthétique, dans la façon dont ils se présentent et tout. Je trouve que le côté, il y a vraiment un truc où tu fais, c'est le rap à une période où on essaie de dire, il n'y a pas que le rock, on peut faire un truc à notre sauce, mais en gardant, tu vois, cette esthétique un peu de bonhomme, quoi.
Alors le rappeur n'est absolument pas, ne fait pas partie du groupe. Enfin, c'est un ajout pour ce morceau.
Okay.
En fait, justement, le morceau original n'a pas de. En fait, le morceau original, bon, c'est pas une reprise, mais c'est un. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un remix. Le morceau original n'a pas de. Ouais, un edit. Il a pas de. Il y a pas de rappeur dessus. C'est vraiment avec cet album-là, enfin en 91, où du coup, il pose les bases du truc. C'est pour ça qu'on appelle ça la Stadium House, parce que du coup, c'est un truc un peu pour les stades avec des trucs et du rap.
Au spectacle, quoi.
C'est ça. Et du rap pour faire que la house devienne un peu plus vivante. Mais à la base, il y a pas de enfin vraiment le groupe c'est deux mecs quoi, c'est un batteur et un guitariste quoi. Qui font des machines surtout. Voilà.
Mais c'est pour les stades ou pour les maisons, je comprends plus rien moi. Ah.
Sous cas où t'as un stade derrière ta maison.
J'habite dans un stade.
Oh putain.
Ouais. Ah, tu pas ça à chauffer, je te dis pas.
Ah bah tu peux mettre un grand écran. Putain, t'as un beau jardin.
Oui.
Je pense que j'en ai déjà dit beaucoup sur mon morceau, sauf si vous voulez rajouter des choses.
Non, mais j'ai une question.
Alors, je t'écoute.
Ça veut dire quoi, KLF?
Ouais,
je sais plus.
Le thème d'épisode, c'est trois lettres, quoi. C'est Copyright Liberation Front, donc le front de libération du copyright.
À la base, le nom du groupe, c'était The Justified Ancient of Mew Mew. Putain. Voilà.
Pas
l'actrice, je pense.
Non, c'est en deux mots.
Après cette synthèse de 91, est-ce que quelqu'un veut bien reprendre la main? Et oui, je pense que quelqu'un veut bien reprendre la main, Clément.
Oui, bah du coup, ça a pas l'air d'être basé sur le volontariat, mais oui.
Ça ne l'est pas, ça a été décidé en amont, collectivement, je tiens à dire aux auditeurs.
Ça vaut
je ne suis pas un dictateur.
Non, mais la manière dont tu l'as amené, je me suis dit, bah, peut-être qu'en fait, Chloé, elle a une chanson qui va bien passer derrière, non. Et qu'elle allait se manifester, c'est pour ça que j'ai été...
Non, elle avait oublié l'ordre de passage.
Non, j'étais en train de réfléchir.
Ah d'accord, ok.
Tout à fait. Je
eh bien, moi j'ai trouvé que les deux premiers morceaux étaient sous le signe de la joie, beaucoup. Hein.
C'est
puait
trop amusé,
la
là.
Joie les années 80, 91 pour le moment au niveau de la musique. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas continuer dans la joie?
Qui t'endroit
Bon, alors là, c'était Michel, Mylène, Michel Farmer.
Michel
Fermi.
Mylène Farmer avec Désenchanté. Alors, avant qu'on me pose des questions, Mylène Farmer, ça veut dire Mylène Fermière. Parce que... Bah oui. Donc, c'est Désenchanté qui est sorti donc en 1991, qui est à ce jour le plus gros titre de Mylène Farmer. Hein, c'est un peu son gros truc. Et si j'ai choisi ce morceau en particulier, c'est notamment pour son clip. Parce que je trouve que dans les années 90, on rentre vraiment dans le clip, enfin, l'ère du clip telle qu'on la connaît. Enfin, non, mais même aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais l'ère du clip TV. Avec des événements, notamment ce film, ce court-métrage de 10 minutes réalisé par Laurent Boutonnat. Et voilà, c'est surtout ce délire-là qui a porté mon choix, et parce que j'avais un second choix, mais qui était aussi très tourné sur son clip. Donc après, l'éloge de Mylène Farmer, hein, je vais pas la faire, hein, vous écoutez Stupéflip et vous trouverez forcément à un moment donné une chanson qui décrit correctement Mylène Farmer, mais j'en fais plus. Pourquoi je veux l'appeler Michel Farmer?
Michel Polnareff.
Non, mais c'est à cause de Mylène Farmer, Michel Pfeiffer, enfin, attends, je sais plus où j'en suis, moi.
Mylène Farfair. Ouais.
Donc voilà, c'est un de ses plus grands succès. Il a été numéro 1 à plusieurs reprises. Je sais plus exactement, j'ai pas vraiment les bonnes infos. J'ai très mal bossé mon sujet, vous
près,
voyez.
Je peux
vous dire des mots au hasard sur la page Wikipédia prisonnier. ça doit être du clip apparemment. Donc non, mais voilà, c'est surtout. franchement, j'ai.
Il en a plus rien à foutre.
Alors, non, mais j'ai trop mal bossé en fait.
Juste, alors, si tu veux que je te file une anti-sèche qui t'ira bien? Sur la page Wikipédia, t'as un truc qui s'appelle Critique. Et c'est très marrant parce que tu as autant Le Parisien, L'Humanité que Picsou Magazine.
<C'est>... J'avais pas vu Picsou Magazine.
Qui dit peut-être la plus efficace des chansons de Mylène.
Et c'est vrai. On peut pas l'enlever ça à Picsou.
C'est pas que de la merde, Picsou Magazine. C'est un truc. Faut pas croire.
Non, mais après, c'est toutes ces nappes de synthé, tout ça. Mais après, Mylène Farmer, c'est un style en part entière. Donc tout est super bien écrit au niveau du texte. Au niveau de la musique, c'est Laurent Boutonnat aussi.
Oui.
Ouais, c'est ça, Laurent Boutonnat. Ouais. Et putain, musique et clip. Oh. Et voilà, donc c'est bien écrit par Mylène Farmer. En fait, c'est aussi son post-déprime d'après la tournée qu'elle avait fait avant. Et voilà, non, mais c'est un très beau texte, très bien mis en musique. Bon, écoutez, et un très bon clip, même s'il est un peu long.
Ouais, 10 minutes, c'est un peu long, ouais.
Ouais.
C'est un peu long. Bah après, je dis ça, j'ai maté des clips de PNL qui durent 20 minutes, donc à mon avis, d'ailleurs, Mylène Farmer est une source d'inspiration pour PNL, je pense, premier degré.
Voilà, on leur demandera, parce que je crois qu'ils viennent aux prochains épisodes.
On sera d'ailleurs le premier média à avoir une interview exclusive de PNL.
En haut de la Tour Eiffel, par contre.
N'hésitez pas, venez vite au prochain épisode.
Le teasing, absolument. Impossible. Non, très bon choix. Moi, je l'avais vu passer aussi. Et effectivement, je trouve que plus avec ses synthés un peu, enfin, ça sonne bien la fin des années 80 et le début des années 90. On est un peu à cet endroit-là,
ouais,
aussi, je trouve.
En fait, t'as une espèce de maîtrise du synthé à ce moment-là.
En fait, c'est du synthé. En fait, c'est du synthé dégueu avec une production réussie.
Ouais. Mais ouais. Ouais, non, mais voilà, tu sens que ça se maîtrise un petit peu plus que dans les années 80 où genre on fait ah, regarde, je peux faire de la basse.
Voilà. C'est bien.
Ouais, je l'ai beaucoup écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder sur la page Wikipédia s'il y a des
réponses. c'est ça qui m'étonne, c'est quand j'ai écouté un peu les playlists et quand tu regardes un peu ce qui se fait en musique cette année-là, il y a des choses. On est encore une fois sur une année où, très changeante, quoi. Donc là, le début de l'année, on a encore bien un pied dans les années 80, quoi. Et je trouve que on a encore bien un pied dans les années 80 avec cette chanson. Après, je suis pas une grande connaisseuse de la carrière de Mylène, du nom de Michel. Je sais pas
si
ça a toujours été comme ça, si elle kiffe encore les synthés tout autant que.
Ouais, je crois qu'elle aime bien les synthés quand même, Mylène. Hein.
Les synthés, c'est ouf. Et elle a bossé avec un des mecs d'Archive sur un de ses albums.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Un des derniers albums. Alors après, je suis pas Mylène Farmer tout le temps, mais Michel Farmer, oui, par contre, beaucoup.
Désolé, mais quand tu dis non, je suis ouais. pas Mylène Farmer, je dis quoi? Des fois, tu es Mylène Farmer. What?
Et ben en fait, si je suis Mylène Farmer,
mais uniquement je la suis au quotidien dans la rue.
D'ailleurs, quand même une petite anecdote musicale, rapport à la musique et aux faits divers, c'est que justement, tellement ils étaient fans de Mylène Farmer à cette époque-là, il y a un fan qui a tué un réceptionniste de la maison de disques
oui,
Polydor.
C'est vrai, oui.
Parce et que oui, du coup, il refusait de lui donner l'adresse de machin. Enfin voilà, c'est un peu.
Et c'est pour ça que Mylène Farmer s'est complètement effacée du paysage ouais. médiatique pour éviter ce genre de choses. C'est pour ça qu'elle avait fait plus de télé, qu'elle avait fait. En fait, voilà, elle reste dans ses concerts et ses chansons, et c'est vachement bien. C'est vachement cool.
Mais c'est fou, c'est pareil. Tu vois, on est un peu comme REM. En tout cas, mon rapport à Mylène Farmer, c'est le truc de. Ça m'attire pas parce que je pense que c'est pas trop ma cam, même si j'ai essayé d'en écouter parce qu'en même temps, il y a un peu de musique électronique et je pense qu'elle a été assez en avance dans de la pop française à ramener de la musique électronique. Et en même temps, genre, j'aime beaucoup cette nana et je trouve qu'elle a une aura dans certains milieux et tout ça. Enfin. Bah. C'est une icône gay de ouf, Mylène ouais. Farmer. Et je sais pas, effectivement, elle a un rapport à son image que je trouve assez sain. Le côté icône sans en faire un espèce de truc produit
mais
marketing.
Mais qui vient de quelque chose qui est quand même assez hardos quand même. Enfin, du coup, c'est suite à la mort de. Enfin, c'est ce meurtre. Ah, okay. Que du coup, elle a pris de la distance avec son image, tu vois. Mmh. Donc, c'est. Les retours de bâton.
Ça me fait penser, je vais vous poser une question parce que bon, on va dire j'ai 3, 4, 5 ans d'écart avec vous, mais à chaque fois je me demande comment vous la voyez Mylène Farmer quand on se dit gamin, parce que pour moi j'avais l'impression quand j'étais petit c'est que c'était un peu une punchline, malheureusement j'avais l'impression que c'était la meuf, vu qu'elle était un peu à fleur de peau, qu'elle avait son style musical, son look et tout, et vu qu'en plus elle était déjà un petit peu une meuf qu'on voyait plus trop à la télé. J'ai l'impression que c'était devenu on se foutait un peu de sa gueule, on savait pas comment elle s'allait, et limite tu vois c'est assez tardivement que je me suis dit ouais en fait elle a quand même une fanbase assez ouf, et de se rendre compte tu fais non mais musicalement c'était intéressant, alors que moi les rares souvenirs que j'avais de Mylène Farmer de chansons c'était comme celle-ci, je dis ouais bah vieux truc au synthé, je trouvais que c'était ouais que c'était un peu vieillot, que c'était particulier, et qu'en plus c'est pas que c'était mal vu, mais enfin moi j'avais l'impression que ouais jusqu'à la fin des années 90 ouais Mylène Farmer ouais c'est une punchline quoi, et c'est assez ouf parce que je pense que c'est une
tu
des artistes
quoi quand tu dis une punchline
on se foutait d'elle quoi ouais. C'était vraiment genre c'était un peu la meuf dépressive qu'on voyait plus, tu vois, qui était un peu bizarre quoi, c'est enfin en tout cas moi c'est l'impression que j'avais de la façon dont elle était représentée quoi, et ouais, ce côté un peu la meuf suicidaire quoi. Enfin, j'exagère, mais il y avait un peu quand même ce truc là qu'on veut. Enfin, et j'ai l'impression du coup au fur et à mesure de me dire bah non, en fait, c'est juste que elle a un son finalement. En fait, c'est assez marrant parce que au niveau musical, au niveau sonic, ça fait bien années 80, début 90, mais je trouve que du coup dans ce qu'elle aborde dans ses chansons. Le côté un peu désillusion et tout, il y a clairement un truc, tu dis elle a sa place clairement dans les années 90 quoi, c'est un peu genre le monde n'est pas si beau que ça et il y a plein de trucs à en dire, ça marche très bien quoi, donc mais je sais que c'est une artiste moi que je redécouvre au fur et à mesure en me disant c'était beaucoup plus intéressant que ce que je pensais.
Ouais, quelle image dont tu en avais. Moi j'ai une image de Mylène Farmer un peu comme Madonna, où c'est des gens, tu as l'impression qu'ils n'existent pas vraiment, tu sais, comme Prince ou Michael Jackson. Non, ils n'ont pas existé, c'est des icônes quoi, tu vois, c'est tellement des stars que ça existe quoi, comme Jésus, enfin tu vois, genre, c'est là quoi. Mylène c'est Dieu. Depuis que je suis née, c'est la superstar, tu vois. Donc,
En France,
tu la vois pas trop dans les médias. Effectivement, tu la vois pas trop parler. Enfin, tu la vois que dans ses.
Non, puis la couleur de cheveux attitrée, quoi.
Ouais, c'est le seul d'ailleurs problème du clip. Je vois pas comment elle peut tenir une coiffure aussi limpide. Alors qu'elle est genre dans une
tu peux aller chez n'importe quel coiffeur. Tu dis, je voudrais la même couleur que Mylène Farmer.
Je vais Mylène Farmer.
N'importe quel, toujours la même couleur, quoi. Toujours.
Ouais. Merci. Moi, je trouve que ça va faire une bonne transition avec le son que j'ai choisi, avec le groupe que j'ai choisi, surtout avec le titre de ta chanson qui est Désenchantée, et de cette génération désenchantée, comme elle le dit si bien.
Ouais. T'as vu, on n'a même plus besoin de mecs qui présentent, en fait.
Ouais, bon, il
c'est ce que j'étais en train de me dire.
Bah oui, mais écoute, j'ai fait ma transition.
Mais t'as bien,
puisque,
mais t'as bien raison. Mais continue.
Plus rien à foutre.
Continue sur ta lancée, c'était super. Écoute, la prochaine, c'est toi qui l'anime.
Oh là, surtout pas.
Elle vient d'avoir une montée de stress.
Oh my god. Non, moi j'ai choisi Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Oh. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que... Ah non, il faut que je dise pourquoi j'ai choisi ce morceau.
C'est mieux.
Tu fais comme tu veux, mais bon.
Bah parce que je trouve que 91, enfin tout de suite quand on a dit l'année, je pense oui. À la musique grunge. Et je pense, et je ne crois pas me tromper quand je dis que la musique grunge a été particulièrement reconnue, connue grâce à ce morceau en particulier. Et cette année-là précisément. Voilà.
Et cet album
tout simplement
là.
Voilà, je trouve que c'est comme enfin il y en a certains qui disent que c'est un hymne de la génération désenchantée. Pour refaire le lien avec bah voilà les gens un peu déprimés quoi. Enfin c'est un peu l'image qu'a ce groupe. Voilà, je vous laisse dire ce que vous en pensez, puis après j'ai des petites anecdotes plus ou moins vraies, plus ou moins marrantes.
D'accord. Non, déjà oui, c'est vrai qu'on n'a pas. Enfin, ça sert à rien de rajouter beaucoup de trucs sur Smells Like Teen Spirit, puisque c'est vrai que tout le monde l'a déjà entendu, donc tu vas pas. Enfin,
ouais.
C'est gros classique de cette année-là. En fait, tu le vois passer, t'hésites, mais du coup, il représente bien le truc du début du grunge et. Je pense que Clément, tu peux dire un mot avant que Manu ait 50 milliards de trucs à dire parce que
je sors
pour
les
le
livres.
Coup, moi j'ai vu. Non mais c'est en fait c'est ça le truc, c'est que j'ai vu l'année. Je connais tes goûts musicaux, je connais tes centres d'intérêt, Manu. Enfin, il y a le grunge, il y a toute la veine hip-hop, un peu tout ça. Je me suis dit, tu vas parler pendant 4 plombes parce que t'as plein de choses à dire. je savais très bien.
Moi j'ai choisi ça comme ça, Manu il parle à ma place.
Oh là putain, non, elle fait jamais ça.
Non, vas-y. Enfin.
Clément, as-tu quelque chose?
Moi, juste dans les choses à dire, enfin, parce que les choses à dire qui n'ont jamais été dites, il n'y a pas grand chose. Enfin,
oui.
Tout a été dit. Moi, ce que j'aime particulièrement dans ce morceau, c'est sa batterie. Je pense que la batterie de l'intro, l'arrivée de la batterie sur le morceau, c'est, ça me file tout le temps des frissons. Et en fait, la batterie est fantastique dessus. C'est là où tu vois le génie de Dave Grohl à la batterie quoi dessus et après la production de Butch Vig dessus c'est fantastique aussi quoi. Non, c'est imparfait là tu enfin voilà, on peut parler pendant des heures et je ne le ferai pas, je laisserai les quelques minutes qui me sont allouées à Manu.
Top chrono.
Parce que moi alors du coup je trouve que ce morceau souffre aussi de ce truc un peu trop entendu je trouve.
Ah bah lui ouais.
Oui.
Et bah, j'arrive à encore
c'est que
un
la
peu
troisième
l'aimer,
fois
mais
que je l'entends.
Il m'agace quand même un chouï quand même.
Presque il t'agace. Bah Kurt Cobain disait lui-même qu'il il détestait ce... Ouais. Enfin, il détestait... Non, il détestait pas, mais il n'en pouvait plus de le jouer. Il n'en pouvait plus de l'entendre. En fait, moi, je trouve ça un peu marrant, parce que quand il l'a écrit... Enfin, il a dit dans une interview sur Rolling Stone Magazine, que j'étais en train de lire tout à l'heure, que quand il l'a écrit en pensant... en voulant faire la chanson pop ultime...
Oui.
Et après, il est un peu en train de chouiner merde. Parce que ça marche. Et tu fais, ah putain, merde!
C'est tout le paradoxe de Kurt Cobain là-dessus.
Voilà, oui, oui, très très paradoxal. Donc, dans les paroles, on sait pas trop ce que ça veut dire. De toute façon, il marmonne à moitié.
Ambitieux,
donc,
mais renfrogné.
Ouais, voilà. Tant qu'il n'y avait pas encore de sous-titres sur le clip, personne ne comprenait vraiment les paroles. Et puis au final, un coup il dit que c'est un hymne pour sa génération, un coup il dit que c'est une critique de sa génération. Mais je pense que je comprends, il a le seum parce qu'il est passé 1000 fois à MTV, puis ils sont un peu anticapitalistes et tout. Et,
bien sûr.
Et tu passes toutes les 5 heures sur MTV, donc il y a un peu le côté genre. Oui, on nous aime parce qu'on nous entend et pas on nous aime parce qu'on nous aime, quoi. Donc je peux comprendre. Bah, si t'entends une musique tout le temps
oui, oui.
À la radio, tu finis par.
Oui, oui,
ou tu peux finir par la détester, c'est vrai.
C'est
vrai.
C'est ça.
Voilà, tu voulais dire quelque chose, Manu? J'avais quelque chose à enchaîner.
Alors, je regarde mon cahier de notes. Voilà.
Ah oui, non, t'avais, non, t'allais prendre non, cette non, chanson, non, t'avais pris
non,
des notes.
Alors, ouais, non, alors, évidemment, je vais pas mentir.
Alors,
je tiens quand même d'abord à applaudir Chloé, quand même, parce que je me suis dit, si on fait tout un épisode sur 91 et qu'on parle pas de Nirvana ou de Smell Like Teen Spirit, je pense que les gens vont dire, vous foutez de la gueule du monde quand même. Parce que. Enfin.
C'est pour ça que je l'ai pris.
C'est-à-dire que tu regardes l'année 91, tu dis, oui, qu'est-ce qui explose en 91 ? Le grunge, parce que. Bah, parce que notamment Nirvana et notamment Smell Like Teen Spirit. Le truc, c'est que c'est pour ça ce que j'ai dit au tout début de soit c'était compliqué, soit c'était beaucoup trop facile, c'est que en fait j'ai regardé, j'ai fait bon bah voilà c'est ça, et ça me faisait un peu chier parce que je me suis dit ah ouais mais est-ce que c'est pas un peu le choix de facilité, et j'avais peur qu'on soit plusieurs à avoir pris ce morceau là et du coup je me suis dit c'est... donc je suis content que tu l'aies pris quand
non,
même,
mais
parce
il faut
que ça aurait
suivre
été
son
dommage,
cœur Clément il a dit qu'il faut suivre son cœur donc voilà
oui mais moi j'ai trouvé
faut
une pirouette
son
c'est vrai.
C'est pas uniquement pour ça que je l'ai pas prise. C'est que certes le single est sorti fin 91. En France elle est arrivée qu'en avril 92. En fait j'ai oui, vraiment regardé en fonction de ça. J'ai fait en fait le succès vraiment de la chanson Smell Like Teen Spirit au niveau international, c'est pas tellement 91, c'est plutôt début 92.
Alors non, c'est fin 91 et je crois qu'il est, il a, ils
parce
sont
que
passés dans les
l'album
top
date
en
de
octobre 91 il me semble. Ouais, ouais, et la date de septembre, ouais. Ça c'est le premier. En fait, c'est le premier single, Smell Like Teen Spirit, qui est en septembre 91, et je crois que ça a super bien marché, il me semble, en octobre 91.
D'accord.
Et après, les seconds singles sont sortis en 92, début 92.
D'accord, ok.
Mais du coup, c'est pour ça que ça passait.
Okay. Normalement, il faut le dire. Il faut le dire avec cette voix-là.
Je l'ai vérifié.
Il est sorti en
Wikipédia. Connaissez-vous le site internet wikipedia.org?
Il y a plein. Alors, surtout les articles de musique de Wikipédia qui font 300 lignes. Donc, oui, surtout sur une chanson comme ça, t'as de quoi faire. C'était un très très bon choix. Ce que je trouve super intéressant, c'est que, bah, un peu dans la lignée ce que j'ai dit sur REM et ce que t'as dit, Léo aussi. Enfin, en fait, on peut faire une espèce de mélange des trois trucs précédents. Ça synthétise un peu tout ça, c'est un peu année de transition musicalement, au niveau thématique, un truc assez sombre, nouvelle génération, un peu bah, désenchanté et tout. Et ouais, et là t'as un truc qui explose tout, et le truc c'est que ça sort vraiment de nulle part. Il y a aucune. Normalement, ouais. C'est pour ça qu'en fait maintenant je trouve ça à la limite, c'est un truc à rappeler aux gens qui écoutent de la musique et qui s'attendent toujours, ouais, mais la musique c'est plus ce que c'était, on voit plus des trucs qui ressemblent, tu fais, c'est une anomalie, ça ne devait pas arriver, un truc comme ça. C'était pas censé arriver, c'est parce que l'industrie musicale était dans une période de creux et ils ont pas su anticiper en fait l'émergence de trucs alternatifs qui pouvaient péter, et en fait ce truc là leur est arrivé dans la gueule. Alors ils vont redresser le truc assez rapidement à partir du moment où ils vont comprendre comment on peut faire du Nirvana like ou des trucs comme ça, enfin j'exagère, mais tu vois un peu une scène post-grunge et voilà, et au bout d'un moment ça va un peu se diluer, et puis malheureusement Nirvana va pas durer très longtemps après, mais quand même t'as quand même ce truc où tu fais, ce groupe et surtout cette chanson arrive et elle explose tout, quoi. Et ça a aucun sens qu'une bande de gamins qui font une espèce de punk un peu destroy qui viennent de Seattle, que ce truc il marche pas juste dans leur pays mais au niveau mondial. Enfin, ça. Ça a presque aucun sens. Et moi, ce que je trouve toujours ouf, c'est que t'écoutes encore la chanson maintenant et tu comprends pourquoi. C'est comme tu disais, Clem, il y a le son de batterie, mais il y a plein de trucs en fait dedans. Tu fais le côté couplet calme, refrain qui explose. c'est peut-être une des meilleures. Alors, c'est pas eux qui l'ont inventé, évidemment, mais c'est peut-être une des meilleures.
Les Pixies.
Ouais, les Pixies. Non, mais oui, en plus, ouais. Nirvana l'a dit aussi.
Oui, mais en plus, il s'inspire justement des Pixies, parce que c'est un gros fan des Pixies, et il s'en inspire vachement pour ce morceau-là. Et c'est pour ça qu'à la base, lui, il voulait pas que ce soit. Enfin, je parle de Kurt Cobain quand je dis lui. Hein. Il voulait pas que ce soit ce morceau-là qui soit le premier single, il voulait que ce soit Lithium.
Ouais.
Parce qu'il s'est dit, merde, on va me dire que je fais du Pixies, quoi.
Ouais, 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 bah
tellement
ouais.
Il s'en est inspiré, quoi.
C'est vrai.
Et les Pixies, est-ce que ça a autant d'impact? Enfin, je les adore, mais.
Ouais, ils ont. Where is my man, excuse-moi, mais en termes de tube planétaire aussi.
Ouais,
aussi,
ouais, mais est-ce que. Est-ce que ça,
ouais, enfin, quand même.
Ils ont sorti un album cette même année, et dans cet album, je. Enfin, je sais pas s'il y a des tubes particuliers.
J'aime
dans
beaucoup
l'album,
les Pixies, mais ils ont pas du tout la portée qu'a eu Nirvana. Enfin, je veux dire. C'est pas non plus le groupe préféré, ton groupe préféré, mais enfin.
Je me pose quand même sérieusement cette question de est-ce que en 91, Nirvana, c'est ce truc, ce raz-de-marée, même en France? Ou est-ce que c'est pas les déboires de Kurt Cobain derrière qui ont créé cette image d'icône absolue? Je pense que c'était très gros, hein, c'est pas ça, c'est juste. Vu que 91, j'étais pas là, je sais pas.
Ça vient
je
après.
Je pense pas que. Ça vient un petit peu après, ouais, je pense que. En fait, t'as le raz-de-marée, Smell Like Teen Spirit, enfin, c'est Nevermind, l'album. Qui arrive, et je pense que c'est 92 le vrai raz-de-marée, mais je pense que t'avais déjà quelques petits connaisseurs, quelques petits malins qui avaient déjà flairé le truc sur Nirvana, quoi. Donc je pense que c'était plus de niche au début, et après Smell Like Teen Spirit et Nevermind, ça a été plus quelque chose du grand public.
C'est ça. Ça prend une proportion qui dépasse complètement. Enfin, je veux dire, j'aime bien écouter Bleach. Mais je veux dire, tu peux pas te dire en écoutant Bleach que ce groupe-là va avoir il peut faire un très bon album suivant, mais de là à te dire que ça va être un succès planétaire et que c'est.
Non mais.
C'est ouf, quoi.
Le truc, c'est un alignement d'étoiles, en fait, tout ça. C'est l'industrie musicale, c'est le producteur qui est derrière, donc en l'occurrence Butch Vig. Ouais. Enfin, c'est énormément de choses qui se sont alignées, parce qu'avant Dave Grohl, avant cet album-là, ils avaient d'autres batteurs. Et Dave Grohl est arrivé sur la composition de cet album, et en fait tout s'est aligné pour qu'en fait ça glisse tout seul, en fait. Donc t'as pas vraiment d'explication, c'est quelque chose de presque mystique.
Waouh.
Mais pour
c'est
le succès
très mystique, je trouve, quand même.
Mystique comme la méchante dans Picsou.
Charnière et mystique.
Pardon.
Pour le succès de Nirvana, je sais pas si s'ils étaient aussi mystiques en 91, mais je vois sur Wikipédia, le saviez-vous, qu'il y a quand même dès la fin des années 80, de l'année 91, il y a quand même des gens qui disent que c'est un son qui va être, tu vois,
le son
d'une génération, tu vois.
Bien
donc
sûr. Bah de toute façon,
c'est pour ça que j'ai choisi ce son-là et pas un autre, s'il vous plaît.
Ah ouais, non, mais c'est pour ça que t'as eu très bien raison. Et en fait, t'as raison, ton argument sur 91, ça marche très bien. Mais
après, comme ça, on pourra reparler de Nirvana en 92 aussi.
Oui,
hein.
Alors, ça va être un peu
compliqué. Et en 93 aussi.
Je t'avoue aussi que là, c'est vraiment une période. Ces années-là, pour moi, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de trucs dont tu peux parler.
Je pensais à un truc aussi. Tout à l'heure, tu parlais de REM et du fait qu'ils passent en radio et qu'ils sortent un peu nulle part, et qu'au début, c'était un peu sur des radios locales ou qu'ils faisaient des tournées locales. C'était un peu le cas de Nirvana aussi. C'était un groupe qui avait sa petite notoriété et qui, voilà, qui a popé comme ça. Bon, peut-être qu'REM avait une plus grosse notoriété.
Je pense qu'il faut.
C'est la scène de Seattle, c'est le truc du grunge, hein, de toute manière. Il y avait une grosse scène là-bas.
Il y a ça aussi, c'est que le truc qui peut te laisser sous-entendre qu'il va y avoir une émergence, c'est qu'en fait, le truc des scènes locales. En fait, REM, c'est un peu pareil, parce que je crois que c'était les B-52s ou d'autres groupes. Enfin, t'as plusieurs groupes comme ça qui ont une notoriété assez grosse dans les années 80, qui venaient justement de cette scène un peu alternative. Et t'as eu plusieurs villes comme ça qui avaient un peu ces trucs-là. Et Seattle, ça a été, l'exemple le plus marquant, parce que nous on le voit un peu moins peut-être de France, mais Pearl Jam a été aussi gros quand ils ont explosé en 91 aussi que Nirvana. Enfin, je veux dire, il y a eu vraiment ce truc où tu fais Smell Like Teen Spirit est devenu l'hymne vraiment, mais t'as quand même ce truc, c'est que Eddie Vedder et Kurt Cobain étaient autant des stars à cette période-là. Alors finalement, on va dire l'aura de Kurt Cobain et puis évidemment son destin et tout ont fait qu'il est passé dans un autre level, où même maintenant les gamins ils connaissent encore Kurt Cobain, je trouve ça ahurissant, tu vois. Mais quand même, c'est t'as une continuité en fait là-dedans, où tu dis c'est Oui, c'est le rock alternatif, par exemple, des Pixies qui les a influencés. Et puis, bah, en fait, t'as un truc qui émerge. Et puis, en fait, ouais, ils arrivent au bon moment et avec le morceau parfait, et ça explose, quoi.
C'est...
Mmh. Ouais.
Et y avait un autre groupe aussi, Soundgarden, je sais pas si vous connaissez, avec un chanteur
ne me manque pas,
qui est sorti il y a pas très longtemps.
Ah, mais tu fais quoi, Léo?
Il fait de l'autopromo involontaire.
Bon, je pense que vous êtes déjà au courant si vous, avez, vous êtes arrivé jusqu'ici, mais du coup, Manu a écrit un super livre sur le Chris leader Cornel. De Soundgarden, qui est Chris Cornell, donc il s'y connaît un petit rayon dans le grunge quand même. Voilà, donc si vous aimez
le
ça.
Le livre s'appelle Clair Obscur aux éditions Le Camion Blanc.
Ah, elle le fait bien.
J'adore, j'ai même pas besoin de faire ma promo, c'est génial.
Voilà, c'est pas une auto-promo, c'est nous qui faisons
exactement.
Ta promo.
Exactement, c'est beau ça. Bah, oui, Bad Motor Finger, très très bon album de Soundgarden, voilà. Voilà, sorti cette année-là okay. aussi. C'est, ouais. Alors, je veux
donc,
juste.
Ça y est, on est sur les recos là.
Moi, je pensais que t'allais parler de ça.
Oui, mais non.
Alors, ouais, moi aussi.
Il y a un truc, c'est que je propose qu'on fasse le top 3, si vous voulez. Parce qu'en fait, il y a quelques. Alors, sauf si. Attends, Chloé, t'avais des trucs à dire autrement.
Ah, attends, moi, j'avais une anecdote.
Pardon. Okay,
peut-être vraie, peut-être fausse, mais rigolote.
Vas-y, je te laisse, pardon.
C'est moi qui fais la transition. Là, je trouve que vous prenez un peu trop de liberté.
Ah, t'es encore là, toi,
c'est moi faire, en fait.
On a plus besoin de toi, Léo.
Enfin bon, je vais me vexer à un moment donné.
Alors, vous savez pourquoi ce titre s'appelle Smell Like Teen Spirit?
C'est l'histoire de déodorant, non? C'est pas ça?
Oui.
Ah, bah voilà, t'as spoilé mon histoire rigolote. J'aurais pas dû poser la question.
Bah, tu poses la question en même temps.
Mais oui, bah je voulais qu'on dise. Oui, capitaine!
Oui, capitaine! C'est quoi alors?
Tu vas nous le dire? Bah, en fait, à la base, c'était une phrase qui était écrite dans la chambre d'une pote à Kurt Cobain qui a écrit Kurt smell like teen spirit. Et lui, il pensait qu'elle faisait référence à une discussion sur l'anarchisme et le punk qu'ils avaient eu en mode ouais, voilà, j'ai l'esprit, hein, tu vois. Et en fait, non, c'est un déo. Bah, parce qu'il sentait ce déo là quoi.
L'anecdote est bien plus pertinente que simplement c'est une histoire de déo.
Oui, bien sûr. Mais bon, c'est vrai, j'aurais pas dû poser la question.
Ça résume le morceau, ça résume l'album. C'est vraiment genre, c'est peut-être profond, mais en fait, peut-être pas du tout.
En fait, peut-être pas. Et peut-être juste, ça marche comme ça. Et...
Du coup, maintenant, je vais reprendre le lead de cette émission et vous allez fermer. Pardon.
Donc, c'est le moment de passer au top 2 parce que je rappelle que c'est deux chansons.
Oui, c'est un top
2,
tout à fait.
Oui, enfin, c'est top 3 avec celui qu'on a choisi, c'est pour ça.
Voilà. Et, tout à fait. Oui, non, mais voilà, mais vous avez vu comment je viens de piquer le lead de l'émission à Léo.
C'est les mentions honorables.
Le maître du temps.
Du coup, bon. Je vous propose les petites mentions honorables. Manu, tu avais l'air d'avoir beaucoup de choses à dire, donc vas-y.
Non, ça va être assez rapide. Non, mais ouais, sur les mentions honorables. Mais, bon, je vais vous donner mon top 3 classique. Bah, Wind of Change de Scorpion, quand même, parce que je pensais pas qu'elle était encore un énorme succès en France. Et puis tu fais en Europe, en tout cas. C'est quand même pas une chanson comment dire c'est assez mémorable parce que fin de la guerre froide et tout, c'est vraiment le truc sur la chanson de rock sur on va dire le vent du changement, nous sortons de la guerre froide, nous sortons du bloc soviétique et tout ce que tu veux, et ça a été un morceau qui a eu quand même un impact de ouf à l'époque, donc je me suis dit c'était quand même bien de le noter. Et puis mon troisième c'était Désenchanté, donc voilà, je...
Ok,
voilà, en fait j'ai fait rapide, hein.
Clément,
moi je veux juste en donner un. Le deuxième choix que je voulais prendre, sur lequel j'ai hésité, c'était Black or White de Michael Jackson. Tout simplement parce que dans ma tête, c'est comme ça que je me représente Michael Jackson, c'est sur cette chanson là à peu près. Parce que Michael Jackson, c'est un peu comme Iron Man, à chaque album il revenait avec une nouvelle armure, on va dire. Et du coup, dans ma tête, Michael Jackson, c'est une chemise blanche et voilà. Et par ce clip avec ce morphisme de ouf.
Oui, la technologie quand même.
La fin du clip, et donc voilà.
Et du coup, t'as cité qu'un seul morceau, mais.
Ouais, mais parce que j'en ai pas un deuxième.
T'en as pas un deuxième? Putain, je suis hyper après, étonné.
Non, ah bah si, j'en ai un deuxième, mais j'arriverai pas à le prononcer correctement, on va dire. C'est ah merde, je sais plus pas le prononcer, de Mano Negra aussi, qui était sorti cette année-là.
Et c'est lui.
On va mettre un extrait parce que moi je me situe pas.
Ok, c'est pas trop l'image que je me fais de Mano Negra.
Ouais, pareil. Putain, je savais pas qu'ils avaient fait. C'était aussi vieux que ça, la Mano.
Ah, si, c'est fin 80.
Si, c'est fin 80, mi-90.
J'adore cette manière qu'on a de faire ça des fois. quand quelqu'un dit un truc et genre ah je savais pas, on est, oui, mais oui, je suis pas, vrai. Je fais pareil, on fait ah mais si si, et tu fais oui mais c'est
non,
pas.
Non mais ouais, tu savais pas, non mais voilà, mais on te donne l'année.
Ah putain, King Kong Bongo, c'est 91, ok.
C'est la même année.
Tu vois, je connaissais même pas cette chanson.
Tu connaissais pas ?
Ouais, celle-là, je le connaissais
moi,
pas.
Je la connaissais
tu vois,
pas
bah,
non
tu vois, moi, tu me dis Mano Negra, c'est pour ça que je pense à King of Bongo, en fait. Je...
Bah, bah, c'est pareil.
Après, non, je connais
non,
pas
en fait,
assez
ce que j'ai trouvé
même,
intéressant mais... dans celle-là, c'est que, bah, en fait, Mano Negra, c'est un regroupement de plusieurs fils d'immigrés, on va dire. Enfin, on sait même pas, on va dire, c'est ça. Et du coup, c'est la culture vraiment mélangée de que chacun a ramené dans le groupe, et notamment, bah, ça, c'est un des premiers morceaux... à s'être hissé dans le top 50 en arabe en France, donc j'avais trouvé
d'accord,
ça assez intéressant.
Ok. Trop bah, tu vois, c'était bien monsieur, que tu en parles
ouais,
parce que.
Ouais, non, important. Non, mais j'avais un peu zappé.
Chloé, ton top 3 ? Enfin, ton top 2.
Alors, moi j'avais beaucoup hésité parce que. Enfin, avec ma chanson préférée, oui, je dis ça à chaque fois, ma chanson préférée de tous les temps, Crystal Waters, Gypsy Woman, entre parenthèses, She's Homeless, encore deux parenthèses.
Est-ce qu'on aurait pu faire Smell Like Teen Spirit entre parenthèses yeah.
Ah oui, entre parenthèses, des fois c'est entre parenthèses She's Homeless et des fois c'est La Daddy Dalida.
Ah mais
tu
ouais,
vois pour le coup j'aurais jamais trouvé le titre de la chanson.
Bah t'écris
alors que
la
je l'ai
la
entendu
la
mille
la
fois
la.
Tu vois mais ouais.
Parce que là ils ont changé les parenthèses du coup.
Et du coup on est vraiment sur ce que sur le truc de musique électronique et de house de l'époque bien.
Non, c'est la BO de Street of Rage
qui est bien fait, quoi.
Ouais. Mais là, j'ai hésité parce que je me suis dit, la house, c'est... je connais pas aussi bien que toi, Léo. Je sais pas
et
quelles
en même
sont
temps,
les années où ça marche le plus. Et en même temps, ça, c'est dans le top. Donc, en fait,
début,
ça veut dire que
là,
ça, c'est déjà...
91, 92, c'est le moment où ça pète un peu partout. Mais c'est le problème, c'est que ça a jamais vraiment pété
bah, c'est quand
comme
même,
d'autres styles musicaux, quoi.
Et en même temps, classique. Tu vois, si on jouait à la QV et que je devais trouver l'année de chanson, de base, je t'aurais dit 91 ou 92. Je trouve qu'il y a vraiment un truc dans le
t'aurais
son.
T'aurais gagné.
C'est... Bah ouais, bah super, parce que je suis
moi,
fort
j'aurais
à la
dit Q... 97. C'est
ah
trop
oui
bien produit. Ouais. Bah, ça sonne pas comme de la house de 91. Parce que je peux t'en balancer de la house de 91, ça ressemble pas à ça. En fait, c'est plus un style fin 90 parce que du coup, la prod, elle est très sautillante, dansée, un peu breakée, un peu two-step. Et du coup, c'est pas du tout un truc début 90, c'est vraiment un truc fin 90.
D'accord.
C'est assez... voilà.
Donc c'est en avance sur son temps.
Et donc toi, t'aimes bien
ouais
ce okay son, Chloé.
C'est... Ah, mais j'adore.
Ah, moi, j'aime beaucoup aussi. Hein.
Ah, mais j'adore. J'adore, tu entends?
Ouais, j'entends.
D'ailleurs, le petard est rouge quand t'as dit elle adore.
Ouais.
Ça, c'est pour te montrer ma passion.
Ok, et t'avais un autre truc
Bah, on n'a pas parlé des Red Hot Chili Peppers.
Ouais, voilà.
On va mettre Give It Away, on va dire.
Après les Red Hot Chili Peppers, pour moi, c'est plus tard qu'ils sont vraiment marquants sur les années.
Alors,
mais je pense
non,
que
mais
c'est
voilà,
parce que c'est notre génération.
Voilà.
Non, parce que Blue Sugar Sex Magik, ça a été un raz-de-marée aussi.
Non, mais je suis d'accord, mais quand tu prends Californication, par exemple, enfin, je pense ils que ont... là, c'est... Là, tu vois, par exemple, c'est un raz-de-marée, mais peut-être plus pour des gens qui kiffent un certain type de musique. Alors que Californication, ça peut parler à la ménagère de plus de 50 ans aussi.
Alors, ouais.
Ouais.
Non, peut-être pas la ménagère de plus de 50 ans à l'époque, mais quand même...
En fait, c'est
maintenant, la ménagère
que...
qui a plus de 50 ans, en tout cas, était trop fan.
Ouais, grave.
Non, mais
grave.
Du coup, la...
Tu vois, je prends un exemple. Ma mère, ouais, elle kiffait Californication. Par contre, Blue Sugar Sex Magik, c'était compliqué pour lui faire écouter.
Ah oui. Et c'était un peu plus pop Californication.
Bah, le truc, c'est que
voilà,
là,
voilà,
c'est vraiment quand ils sont à une période où t'es clairement plus... Bah, de toute façon, tu vois la gueule du clip aussi. Ils sont, c'est du funk rock.
C'est
enfin, plus
c'est de la
fusion,
expérimental, ouais.
C'est l'époque où ils sont limite toujours à poil sur scène, tu vois. C'est
ils ont des aiguilles dans les bras aussi en même temps
c'est vraiment ce truc
ouais,
bah oui, oui bah limite ça c'est le renouveau quoi, c'est le moment où ils repartent de l'avant, bah de toute façon c'est cet album là où ils
se recasser la gueule deux ans plus tard.
ouais mais c'est dire ouais un peu le truc, mais enfin moi c'est pareil, je me l'étais noté de côté cet album là parce que pareil oui c'est... En termes d'influence aussi sur les années 90, je pense que t'as plein de groupes qui sont dans un truc un peu fusion rock jazz et tout qui existent pas s'il y a pas cet album là C'est
Ah ouais, de ouf. Je pense qu'il est méga important pour toute la suite. Parce que en fait, il sonne pas. Et pour le coup, je trouve qu'il sonne pas très 80. Enfin, début 90. En fait, il sonne presque fin 90. Tous les trucs de. Enfin, en même temps, t'as du Panthère en même temps qui est un peu aussi avec un truc un peu groove et tout. Enfin, je sais pas. Ça préfigure un peu le nu metal de la fin des années 90 à la Korn et compagnie. Je trouve quand même vachement ce truc.
Enfin, ouais, bon, voilà, il y a encore un truc un peu funky qui est un peu rétro aussi. Ils sont vraiment dans ce truc, c'est moitié punk, c'est moitié funk, c'est... T'as un nez de mec, tu sais pas... J'ai jamais réussi à savoir si Anthony Kiedis rap ou pas. Est-ce que
oui,
c'est du rap ?
C'est pareil, je me pose la question des fois.
Si,
je sens que ce sujet est jamais vraiment complètement abordé. Il rap ou pas ?
Personne n'a mis un terme à ce sujet. Personne n'a dit s'il rapait, s'il chantait.
Ouais, c'est ça.
Moi, je vais ajouter des petits trucs. Je vais ajouter mes top 2. Alors, il y en a un. On en a pas du tout parlé. Parce que du coup, en fait, j'ai parlé un peu de rap, mais je pense qu'il va falloir qu'on en parle un tout petit peu avant de conclure l'émission. Mais en tout cas, en France, en fait, 91, c'est le début du rap français, en fait. C'est
Benny B.
Non, on n'a pas dit belge.
C'est belge,
français.
Belge. Parce que du coup, c'est l'année de sortie du premier album de Supreme NTM et avec le morceau notamment Authentique. Et on peut pas faire plus début 90 que ça en fait.
Authentique avec un K.
Juste, c'est le premier album de NTM, c'est le premier album de MC Solar, c'est le premier album de IAM. Donc en fait,
la Sainte Trinité.
Non mais le début du rap français, il est né. Et du coup, t'as vraiment ce truc là. Tu sens que ça a évolué très vite.
Bah, tu sens que c'est plus. Enfin, maintenant, on est sûr que c'est plus une mode des années 80. C'est que maintenant, tu fais. C'est un vrai style musical
ça,
et la France va en devenir un des plus gros représentants, quoi.
On aurait pu parler aussi vachement de tout le rap un peu alternatif new-yorkais qui naît dans ces années-là, mais je vais pas en parler parce que sinon on va passer des heures.
Et ouais. Je trouve qu'ils ont quand même un flow là dans cette musique qui est encore un peu années 80, et c'est marrant, ça revient pas à la mode ce flow là.
Non,
on dit,
et
tu
encore,
fais du hip-hop old school, et ben c'est pas ça qu'on imagine. Quoi.
Et encore, je trouve que c'est pas trop. Enfin, je veux pas être méchant, mais j'ai réécouté du Assassin il y a quelques temps. Je te fais, j'aime bien, mais alors putain, qu'est-ce que c'est typé de son époque. Enfin, vraiment, il y a des trucs sur sur la façon de poser et tout. Et en plus, bon, le texte est hyper fac de lettres, mais c'est un peu. Ça a clairement vieilli sur la façon de rapper. Là, je trouve un peu moins. Il y a quand même un truc, je sais pas. C'est parce que
Joey Starr, il a de l'énergie
aussi,
en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est parce que Joey Starr est ultra énergique et ça marche pour ça, mais sinon. Mais je suis étonné d'ailleurs que t'aies pas cité du MC Solar, Clément. Je sais pas pourquoi, je te voyais bien parler de MC Solar. Voilà.
Peut-être pas forcément sur cet album.
Non. Ouais.
D'accord.
Non.
Bon,
non,
bah.
Je crois qu'avec Manu, on a le même album en tête. Et,
Oui, d'accord. Ouais, c'est. Ouais, bon. Enfin, important, parce que du coup, le premier. Je vous conseille d'aller réécouter Sur la planète Mars d'IAM, qui est absolument presque inécoutable, enfin, je trouve. Enfin, inécoutable, qui est vraiment daté de ouf. Et dernier truc dont on n'a pas parlé, et qui pour moi est vachement représentatif aussi, quand même, de l'année 91 et de cette période, c'est que. En fait, il y a quand même aussi le pendant métal, en fait. Parce qu'il y a le Black Album de Metallica, qui est quand même sur ce truc de. Avec Enter Sandman notamment, qui
je suis content
que t'aies
pris ce morceau en plus.
Bah ouais, en même temps il marche bien parce que Nothing Else Matters il est trop
je trouve
pop,
qu'il est pas,
alors que celui-ci
ouais il est Nothing Else Matters est pas représentatif de Metallica, ça c'est représentatif de Metallica qui devient un méga groupe, tu vois, c'est ils font un tube et... c'est du Metallica et en même temps c'est un méga tube le truc, donc oui.
Et c'est je trouve aussi, tu vois, quand je parlais de vraiment de on fait charnière et tout, mais t'as vraiment ce truc de ce morceau là notamment Enter Sandman, je trouve qu'il y a un truc genre c'est métal, mais genre tu peux j'écoutais Super Cover Battle récemment et du coup ils en parlaient en disant c'était un morceau que tu peux faire écouter un peu à tout le monde pour faire découvrir le métal, et je suis assez d'accord avec ça sur le truc de c'est pas trop trash, c'est pas trop air metal, c'est pas trop
ça te tient
black
par la
metal
main
vénère et tout. Et c'est un peu. Ouais, c'est ça. Et ça tombe vers
accessible.
Un truc.
C'est, on, voilà, c'est ça. En fait, alors, la comparaison est un peu foireuse, mais il me rappelle un peu AC/DC pour ça. C'est qu'il y a quand même ce truc où ils arrivent à te faire des riffs qui sont simples et qui répètent, et du coup, on t'embarque dans le truc. Et du coup, des gens qui vont pas forcément kiffer ce genre de musique habituellement vont se laisser embarquer dans le truc et l'apprécier plus facilement. Je pense.
Bon, par contre, il y a quand même de la bonne moustache de camionneur et des cheveux bien longs. Hein.
Ouais, j'oublie, il y a des fois qu'ils avaient encore ce look-là à l'époque.
Et je pense qu'il fallait vraiment parler aussi de cet album, enfin de cet album, de ce morceau-là notamment, mais je trouve que ça représente bien cette année 91, tournant rock et tout.
Ouais.
Voilà.
C'est,
ok.
C'est pour ça que c'était pas facile aussi sur cette année-là en particulier, parce que comme t'as pu le faire d'autres fois, en termes d'album, putain, c'est une tuerie cette année-là. À la limite, c'est plus facile de trouver. Enfin, t'as tellement d'albums marquants, plus que des. Enfin, t'as plein de chansons marquantes, mais t'as tellement d'albums qui sont. Enfin. Il y a un truc qui m'a fait marrer, j'ai noté. Le même jour, le 24 septembre, t'as Nevermind qui sort. T'as Blood Sugar Sex Magik des Red Hot Chili Peppers. Et t'as Low End Theory de Tribe Called Quest en rap. Donc, c'est-à-dire que t'as trois disques qui sont les plus importants de la décennie et même dans leur genre à eux. Tu vois, c'est vraiment genre le même jour, t'as trois albums que, encore aujourd'hui, on dit que c'est des piliers quoi, dans leur genre. Ouais. Quoi. Donc, c'est dire comment c'est blindé 91. Hein. C'est impressionnant.
Et en même temps, il y a beaucoup de trucs nuls aussi, hein, on l'a pas
et
dit.
Il y a
mais
beaucoup de trucs nuls, bien sûr.
Il y a beaucoup de merde.
Mais justement,
on en a pas parlé, mais c'est bien.
C'est un peu le truc dont tu disais, qu'on disait au début, c'est un peu le paradoxe, là, Chloé, c'est le truc d'avoir autant de bons albums et aussi peu de bonnes chansons dans le top, dans le majeur.
Oui,
enfin,
c'est fou.
C'est un truc assez étrange.
Enfin, de bonnes chansons, c'est complètement. C'est un avis personnel.
Non mais très oubliable. Non mais pour le coup très oubliable en plus. Enfin, c'est-à-dire des choses que, enfin moi, en ayant écouté tous les tops, j'ai pas l'impression d'avoir entendu beaucoup de choses que je connaissais bien. Tu vois, c'est ça le truc. Il y a l'album quand même Dangerous que t'entends en single quand même de Michael Jackson, qui est quand même un truc. Voilà.
Moi, je me suis dit le truc quand même symptomatique de ça, c'est que la chanson de Bryan Adams, Everything I Do. Même quand j'étais gamin, tu vois, c'est une des premières chansons que j'ai compris en anglais, que je me disais, putain, en fait, tu peux faire des trucs hyper simples, quoi. C'est vraiment la chanson romantique à deux balles avec des rimes en ou, quoi. Et ben, ce machin, il a quand même été numéro 1 en Europe pendant 18 semaines de suite. J'ai regardé parce que je me dis, putain, mais.
Je sais même pas ce que c'est.
Alors, c'est parce que c'est la bande.
C'est la bande du film Robin des Bois. Ouais. Mais vraiment, tu vois,
Robin des Bois, roi des voleurs.
Ouais. Oui,
pardon. Non, Robin des Bois, deux princes
des voleurs.
Prince des voleurs.
Prince des voleurs.
Ouais, c'est ça. Et c'est seulement le prince. Il est un peu.
Son père est encore vivant.
Et le deuxième s'appelle Robin des Bois II, le roi des braqueurs. C'est dans les temps modernes.
Moi, j'aime bien.
Je pense qu'on a pas mal fait de tour. On pourrait tergiverser encore pendant deux heures parce que moi, j'ai envie de citer encore plein de trucs, mais je me retiens depuis tout à l'heure. Donc, il faut vite qu'on termine.
Ouais.
Et après, on pourra name drop ensemble. Je propose à tous les auditeurs de venir nous rejoindre sur le Discord pour aller rajouter leur morceau fétiche pour eux des années 90, enfin de 91, je suis con, pas de tous les années 90. Notamment si vous avez connu ces années-là, c'est parce que pour le coup, on est, enfin nous on l'a pas connu. À part potentiellement Manu, mais bon,
non,
mais
Manu le sage.
J'avais 2 ans et demi. Non, c'est mort.
Ouais,
c'est peut-être un des plus gros regrets musicalement, c'est que j'ai pas vécu début 90, alors qu'à chaque fois je me dis putain, c'était comme une période de fou. Enfin, t'as fait tellement de trucs dans tous les sens. Mais oui.
Ah, moi, mon regret, c'est de pas avoir vécu le second Summer of Love. Je dis musicalement, j'aurais aimé apprendre de l'ecstasy en Angleterre en 89. Apparemment, c'était bien. Voilà. Bref.
Je suis en train de t'imaginer ta version alternative qui a 45 ans là.
Tu peux le faire, aller prendre de l'ecstasy en Angleterre, hein. C'est pas.
Oui, mais pas avec tout le monde. C'est
au pif, juste comme ça.
Non, c'est interdit de prendre de l'ecstasy,
pardon,
d'accord,
non,
c'est interdit.
Pas droit.
Donc après cette grosse année, on se retrouvera pour la prochaine émission avec une autre année. Mais avant de nous quitter, je vous propose de nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'on dit à la fin. Ouais. Je ne sais même plus quels réseaux sociaux.
N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour avoir un maximum d'infos sur notre prochain épisode avec PNL.
Oui, c'est vrai, effectivement. Du coup, réseaux sociaux, on a toujours Facebook, on a toujours Instagram.
On va dire surtout Instagram, Facebook aussi, mais surtout Instagram, parce que c'est là où je suis le plus présent et que j'en ai marre de donner 40 trucs différents, donc ça sert à rien.
Est-ce qu'il y a Thread
Instagram
maintenant?
Ouais, on est sur Thread.
Est-ce qu'on utilise Thread?
Je l'utilise un peu, mais j'avoue que la communication est plutôt limitée en général, ça marche un petit peu, quoi. Mais oui, principalement, on va se concentrer sur Instagram et sur notre salon Discord, parce que c'est vrai que là, on a plus le temps de faire des blabla plutôt que juste je réponds à des commentaires. Mais voilà, Instagram ou Discord, c'est très.
Et vu que j'ai un nouveau téléphone, j'ai installé Discord dessus, donc peut-être que je viendrai vous rejoindre pour envoyer des messages.
C'est bien,
j'avais pas de téléphone assez puissant pour ça.
Ah ouais, ça va, je fasse ça aussi.
Manu, tu as lancé ton nouveau format début 2024, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais je pense que vous avez déjà écouté si vous êtes arrivé jusqu'ici. très chouette d'ailleurs, c'est bien.
Merci.
D'avoir un format régulier comme ça, c'est...
Ouais, j'ai réussi au bout de 7 ans.
Ouais, bon, la fameuse ton fameux brouillon avec toutes les idées, c'est ça. Tu t'es dit, putain, enfin, je peux les utiliser.
Il y a un peu de ça. On parlait tout à l'heure de mes onglets de navigateur. Bah, vous imaginez un peu tous les textes dans les sous-dossiers qui s'appellent placard et tous ces trucs-là. Non mais oui, en fait, bah, la boisson chaude des tartines fraîches, le petit format hebdo où je parle d'une petite découverte musicale récente, soit dans l'actualité, soit un truc que j'ai découvert régulièrement, enfin il y a peu. Donc oui, on a un épisode par semaine, on en a fait 8 pour l'instant, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Et puis voilà.
Tu en as fait 8.
Non,
il y a moi qui écris, il y a moi qui enregistre, il y a moi qui monte. Donc c'est 3 personnes différentes.
Voilà.
Sinon, ça expliquerait pas pourquoi je m'engueule moi-même quand je fais le montage. C'est que ça peut pas être la même personne.
Je propose qu'on se quitte en se disant merci.
Merci. Merci.
Merci.
Merci.
Merci Clément. Merci Manu. Merci Chloé.
Merci Léo.
Merci aux auditeurs d'être restés jusque-là. Et merci de partager, de transmettre, d'écouter.
Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon.
C'est vrai. Et oui, le Patreon, j'oublie le Patreon.
On a des
donné de l'argent.
Et ça fait très plaisir. Et voilà.
Ah,
on les embrasse.
On les embrasse.
Merci à eux.
Merci à eux. Et puis.
Sauf s'ils ont mangé de la cacahuète, mais ça, c'est juste.
Ouais. Évitez d'embrasser Clément si vous avez mangé de la cacahuète. Ouais.
Et donc, je vous propose qu'on se dise.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine. Ah putain. Yeah.
Ouais.
Ouais.
Wow.